Moi, une de mes bibles, c'est quand même le nettoyage ethnique de la Palestine de Ilan Pappé. C'est un pavé, alors il faut se le cogner, hein, il faut revenir plusieurs fois dessus, mais il est essentiel pour comprendre la supercherie de la construction d'Israël, quoi. Alors, bien sûr, les Israéliens sont là aujourd'hui, donc comme me disent mes amis juifs de l'UJFP, on va pas réparer une injustice en faisant une nouvelle injustice. Donc, il faut que ces gens arrivent à vivre ensemble. Et c'est ce que disait Eleanor Bronstein. Elle dit, mais cette terre, il faut comprendre, il faut que les Israéliens comprennent qu'on n'en a pas l'exclusivité. Donc, il faut qu'on arrive à vivre ensemble et ne pas voir l'autre derrière toujours comme un ennemi.
Peut-être pour conclure, une pensée pour Mariam Aboudaka, qui, je le rappelle, a été arrêtée violemment mercredi soir et retenue en centre de rétention administrative. Elle terminait son intervention à la suite de la projection à l'espace Saint-Michel par ces mots, j'espère les dire à peu près correctement, en parlant de la résistance, la détermination des Gazaouis, on peut nous faire manger du sable, mais avec la liberté.
Ça, c'est tout à fait Mariam. Et d'ailleurs, je quitte votre émission. Je vais dans le métro récupérer ma voiture pour aller tenter de la rencontrer dans le centre de rétention où elle est.
Merci. À la semaine prochaine dans Trou Noir.
Je rappelle que nous avons enregistré cette émission vendredi, le 10 novembre. Au revoir.
Et nous nous quittons avec une autre musique du film qui s'appelle, le fichier s'appelle Fool at the Edge of the Earth.
En liberté. Une émission pour déménager la biologie. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, nous allons faire de l'éthologie. Il faut communiquer, nous dit-on. S'il est bien un fait essentiel dans nos sociétés, ce serait l'ampleur de ce qui est consacré à parler, à informer, à communiquer. Depuis l'intimité du couple jusqu'au discours politique, la communication paraît le plus important mécanisme des relations humaines et animales. Pourtant, au fur et à mesure que partout bruisse ce bavardage permanent, le contenu, le fond de la parole paraît de plus en plus superficiel, voire même suspect. Car plus la communication s'étend, plus chacun semble s'enfermer dans un énorme silence. Il n'y a qu'à regarder les gens qui marchent dans la rue. Leur assourdissant silence, comme disait Camus, est largement dépassé par le bavardage incessant des marchandises. Et avec les écoles et les spécialistes, il semble que la communication soit définitivement un acquis du pouvoir, un acquis des marchands et des États. Pourtant, il n'existe pas d'être vivant sur cette planète qui n'ait pas quelque chose à raconter, quelque chose à nous dire. Les animaux parlent, n'en déplaise à Pascal qui ne voyait que leur silence. Les êtres vivants se bousculent dans un art délicat de la communication, souvent non-verbale. Alors, à petits pas, nous allons essayer de décrypter cette affaire dans ce premier volet consacré à la communication animale et biologique. D'où vient le sens ? Pourquoi le bruit de nos paroles résonne-t-il si fort ? Pourquoi communique-t-on ?
Thank you.
Pef Tissé Lati, un beau rébético.
De retour sur 89.4 Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à découvrir la biologie dans une émission faite pour tous les explorateurs de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté.
Et nous voilà maintenant effectivement, à parler d'éthologie. Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs, je suis Thierry Laudet, et donc Siona est avec moi, vous l'avez entendu.
N'est-ce pas?
Bonjour Siona.
Bonjour tout le monde.
Pour cette émission qui aujourd'hui fête ses un an, déjà un an que nous nous amusons à décortiquer la biologie. Alors nous avons parlé de Darwin, du territoire, des amours libres, de la biodiversité, du créationnisme, de l'adaptation et même de la dominance. Donc beaucoup de choses ont été dites en cette année et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur ce que devient, sur ce qu'est la biologie.
Et que l'aventure continue.
Alors merci à nos commentateurs, hein. Je réponds tout de suite à certains des emails que j'ai pu recevoir, notamment à Anne-Laure de Toulouse, pour lui dire que nous avons déjà abordé le thème des femmes et qu'on a aussi abordé le thème de la dominance, mais qu'en effet, on pourra encore en reparler avec d'autres sujets, je pense que ça va t'intéresser, s'il y en a d'ailleurs.
Tout à fait.
D'autres sujets pourront aussi compléter cette thématique sur les problématiques féminines et biologiques. Et pour répondre aux inquiétudes de Thibault de Nantes, je réplique « Oui, je suis contre les OGM, bien que je sois généticien de formation. Les OGM ne sont que des chimères pour un monde marchand et on n'en connaît même pas le vrai danger. Donc je le dis une fois pour toutes, c'est pas la peine de me demander. C'est pas parce que je suis scientifique que je peux tolérer toutes les bêtises scientifiques qui se font. La biologie sert davantage à vendre des brevets qu'à faire des recherches désintéressées. Je n'en doute pas une seconde. Mais il reste encore de la marge pour la démarche scientifique. Nous en reparlerons bientôt dans une émission spéciale sur la démarche scientifique, sur la biologie et même sur la marchandise et sur le biologique. Mais aujourd'hui, nous parlons de...
la communication.
De la parole, d'où vient que nous communiquons, de quoi parle-t-on, de quoi, en fait, est faite cette communication étonnante et bizarre. Alors, quel est ce son étrange et répétitif? Eh bien, on a tous reconnu, pour ceux qui connaissent ces choses-là déjà, qu'il s'agissait de chants de gorge inuits. Et dans ces chants de gorge inuits, il s'agit d'une véritable bataille, d'une véritable bagarre entre les sons et entre les choses. Alors, c'est tout à fait étonnant, ces chants de gorge inuits, parce qu'effectivement, ça nous donne cette impression paradoxale qu'il ne se passe rien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi tous les facteurs qui vont affecter la décision des animaux, la communication joue évidemment un rôle prépondérant, et voilà pourquoi on va retrouver des éléments biologiques. Les sons de gorge inuits sont des chansons qui servent en fait davantage de jeu, de bataille, de sons, de bataille de chansons, et dont l'objectif n'est pas réellement de communiquer autre chose que le fait d'être si bien ensemble.
Et de se répondre. Là, les deux femmes se répondaient, en fait.
C'est tout à fait ça. L'idée, c'est d'être ensemble, de parler ensemble, de s'amuser ensemble. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information qui va découler de ces unités informatives trouve en fait sa force dans l'émotion. Et évidemment, un chat qui crie nous le montrera bien qu'il est capable de cette communication paradoxale de faire du bruit tout en étant en effet un animal plein d'émotions. Alors, d'où ça vient ces signaux? Comment est-ce qu'un signal peut-il donner du sens? C'est-à-dire, en biologie, on dit comment un signal peut-il être pertinent? La pertinence d'un signal provient de plusieurs éléments particuliers, notamment du fait qu'il est exclusif.
Un signal donné va avoir un sens arbitraire immédiat. La communication pour cela présente d'abord des caractéristiques fondamentales, celle de présenter un contraste sur un fond. Voilà un contraste sur un fond, on a entendu un bruit, parce que dans le fond indifférencié, quelque chose semble se dégager. Mais ce contraste sur ce fond signifie bien qu'il y a une intention, qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette communication. A priori, on pourrait le prendre comme ça. Alors c'est pour ça que Darwin avait d'entrée de jeu proposé comme modèle le principe dit de l'antithèse. Alors c'est quoi le principe d'antithèse ? Il s'agit en effet de présenter deux éléments totalement différents. Par exemple, un chien qui va être en colère, va se grossir, va présenter d'un point de vue de la présentation de son corps la queue levée, les poils hérissés, montrer les dents, alors qu'un chien qui va au contraire essayer de montrer qu'il est doux, qu'il est soumis, qu'il est calmé, va présenter le dos creusé, va s'enfoncer près du sol, va se faire tout petit. C'est ce fameux principe d'antithèse qui colle avec le principe contraste-fond et qui permet effectivement de comprendre quels sont les fondements même de la communication.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui existe comme autres signaux ?
Alors, pas comme autres signaux, comme signaux tout court. Tous les signaux vont avoir, en fait, comme fondement d'établir ce contraste. Alors, évidemment, là, on a fait un peu de bruit, parce qu'on est à la radio et que ça compte, mais les signaux, souvent les plus importants dans le monde animal, ce sont les signaux olfactifs. Ces signaux olfactifs vont fabriquer des traces odorantes. Alors, par exemple, chez les fourmis, ces traces odorantes sont sécrétées par une glande qu'on appelle la glande de Dufour, qui est située à la base de l'abdomen. Et chaque animal va laisser quelques éléments, quelques petits dépôts odorants que l'animal suivant va reconnaître. Et donc, la fourmilière va permettre de fabriquer ces chemins qui vont exister autour de la fourmilière et qui vont évidemment petit à petit indiquer aux fourmis dans quelle direction ces directions ont été prises. Alors, ce dépôt de marque odorante olfactive va aussi exister chez beaucoup d'espèces. Des animaux comme le tigre, par exemple, vont uriner sur différents arbres, sur différentes plantes, pour laisser ces marques olfactives. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se rendre compte que ces éléments olfactifs vont être sur des dépôts. Et donc, à l'endroit où ils sont déposés, ils vont rester un certain temps. L'intérêt, c'est qu'on peut, du coup, communiquer avec des individus qui sont absents. La marque olfactive va permettre de reconnaître qui est passé par là. Le guépard dit ainsi, je suis Jules, Marguerite est dans le coin, je suis dans le secteur et je compte bien y rester un certain temps. Au fur et à mesure que le temps va passer, cette marque olfactive va diminuer d'intensité et ça va évidemment totalement disparaître au bout d'un certain temps. Mais il y a aussi d'autres signaux olfactifs.
Lesquels, donc ?
Alors, par exemple, on va avoir des signaux olfactifs qu'on émet d'une manière plus ou moins continue. Par exemple, chez les papillons, le papillon lune, par exemple, on va émettre un mécanisme de phéromones, des bombicoles, par exemple, des odeurs de ce genre, qui vont se diffuser sur des kilomètres et des kilomètres, mais qui vont permettre de retrouver dans l'air, dans l'atmosphère, ce type d'odeur. Évidemment, la diffusion se fait en cône, c'est-à-dire que plus on est loin, moins c'est précis. Un système olfactif bien connu aussi, ce sont bien sûr les phéromones.
Mais c'est fou, il doit y avoir un mélange énorme entre toutes ces phéromones d'espèces différentes.
Ah non, parce que les phéromones sont spécifiques à une espèce donnée. Et donc les phéromones, c'est un appel sexuel. Mmh. On dégage des phéromones au fur et à mesure de notre désir sexuel, de notre manière d'être. Et ces phéromones sont dégagées par toutes les espèces animales, et par l'homme y compris. Elles ne passent pas par le système du cerveau, c'est-à-dire que ça passe en dehors. C'est chuinté au niveau de la communication.
Ah oui, parce que je ne me souviens pas avoir senti des odeurs spécifiques.
Non, on ne les sent pas vraiment, mais on devine. C'est-à-dire quand on voit passer quelqu'un, oh là là, on sent que...
Du sexe à pile.
Ça émet, voilà, le sexe à pile. Ça émet des phéromones, tout cela. Et selon les personnes, évidemment, selon leur désir, ces phéromones seront plus ou moins sensibles, plus ou moins visibles dans le sillon de la personne. Alors évidemment, il s'agit là d'un appel sexuel tout à fait particulier qui permet de rendre compte de qui on est, de comment on est et de ce qu'on peut exprimer. On est toujours ici dans une idée de la communication relativement simple. Les individus vont émettre des sons, vont émettre des choses et on communique en quelque sorte une information. Mmh. Alors on va voir que ce n'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours d'information, il se passe des choses un petit peu différentes. Parmi les autres signaux, on peut trouver...
Alors les signaux tactiles, non ?
Par exemple les signaux tactiles. Les signaux tactiles, ce sont les attouchements, les caresses, les mouvements de dents parfois. Là encore, évidemment, ces signaux tactiles nous informent sur l'état de l'individu qui est à côté de nous. En le caressant, on peut lui dégager avec lui tout un ensemble de paramètres, tout un ensemble de choses qui montrent qu'on va s'accepter. Mais alors, pour arriver à un signal tactile, c'est assez compliqué. Parce qu'au départ, évidemment, on a un espace à franchir qui est celui du toucher. Lorsqu'on touche le corps de l'autre, on se met en danger et on met en danger l'autre.
Et on se rapproche de sa sphère intime.
On se rapproche ici de ce qu'est l'individu et par exemple les prédateurs évidemment vont toucher l'individu, ce qui fait que si on se sent touché sans qu'on ait nous-mêmes consenti à cet attouchement, on a tendance évidemment à s'enfuir. Alors les signaux tactiles les plus connus sont les signaux de toilettage, ça existe beaucoup chez les primates, chez les singes, on va passer beaucoup beaucoup de temps à tous ces éléments de caresses, etc. Et bien entendu, on est déjà ici en train de définir une fonction sociale de ce signal particulier. Et puis, parmi les signaux qui sont très proches des signaux tactiles, il y a des signaux de type électrique. Par exemple, l'ornithorynque est capable d'émettre de l'électricité, mais aussi la fameuse anguille électrique qu'on appelle la gymnote et qui va émettre de l'électricité. Alors, pour faire quoi ? Eh bien, elle va émettre de l'électricité pour annoncer qu'elle est amoureuse. Et finalement, c'est un point tout à fait particulier, ces signaux tout à fait étonnants qui sont capables de déclencher des éléments amoureux chez les autres.
Les Andrew Sisters.
Oh, Tico, Tico, tick. Oh, Tico, Tico, talk. This Tico, Tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. So speak, oh, Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico, Tico calling. Because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. I've got a date at 8 o'clock to celebrate with my friend Tico, Tico, talk. A birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I hear my little Tico, Tico calling to me. The time is right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. Tico, 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 tac, Tico, tac.
Car nous voilà maintenant toujours dans la question de la communication. Et dans les communications, il existe évidemment ce qu'on appelle les signaux sonores.
Comme par exemple
Alors comme par exemple le cri du grillon. Par exemple, le grillon va frotter ses élytres contre ses pattes et ça va former un son qui évidemment a un objectif essentiel déjà de présenter ça. Son existence, de dire qu'il est là, et évidemment, si possible, d'attirer la présence des femelles.
Alors, oui, c'est pareil pour les oiseaux.
C'est pareil pour les oiseaux. Hein, des oiseaux, comme par exemple le carouge à épaulettes, ou le rouge-gorge, ou le pinson, vont émettre toute une série de signaux sonores qu'on connaît bien, et qui sont produits par la gorge, mais d'une manière un petit peu particulière, puisque l'animal possède un organe spécialisé au carrefour des bronches. Cet organe spécialisé, on l'appelle la syrinx. D'autres animaux font ça tout simplement avec leur bouche, avec leur le son est produit directement par des cordes vocales ou par des organes qui vont l'amplifier, comme par exemple chez les amphibiens. On a tout un ensemble de choses. Alors le problème des sons, c'est qu'on a souvent beaucoup, beaucoup de mal à les comprendre. Quand on est un être humain, on a du mal à comprendre ce qu'est le son. Et quand on entend des animaux qui chantent et qui sonnent et qui font leur propre chant, il est évident que parfois on ne peut pas bien se représenter ce que cela signifie exactement. Et pour se représenter ce que ça signifie, on va utiliser des petits éléments. Alors voilà par exemple ici le son du loriot.
Ah, il est très joli comme son.
Et ce petit chant du loriot, évidemment, pour le comprendre, pour le concevoir, il a fallu qu'on dessine ce chant. On en appelle ça un sonogramme. Le sonogramme est représenté par un système d'oscillation. Hein, tous les gens qui font de la musique connaissent bien ça. Avec des couleurs différentes sur le spectrogramme selon que le son est fort. C'est l'intensité en décibels. Et puis, on voit également la fréquence sonore qui s'élabore. Alors, ça permet de mesurer ce que sont les sons, ça permet de les analyser, et puis ça nous permet de s'apercevoir qu'il y a des sons qu'on n'entend pas.
Par exemple, l'appareil.
Ce sont les ultrasons.
Ah oui.
Les ultrasons qu'on n'entend pas, dont la fréquence est inférieure à 20 000 Hz, 20 kHz, par exemple chez les orques, chez la plupart des mammifères, hein, il y a des ultrasons produits par les petits. Et puis il y a d'autres sons qu'on n'entend pas parce qu'ils sont beaucoup trop bas. Ce sont ceux qui sont inférieurs, dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Ce sont les infrasons qui sont produits par des espèces comme par exemple
l'éléphant,
le rhinocéros, enfin des espèces de ce genre qui vont exprimer à travers ces infrasons tout un ensemble d'éléments vitaux, tout un ensemble d'éléments importants pour leur mode de vie particulier.
Alors là, on a vu une série de signaux. Il y a bien sûr ce qu'on voit.
Voilà, ce sont les signaux visuels. Les signaux visuels qui sont en fait souvent des éléments de coloris. Par exemple, on peut penser à la coloration faciale qui existe chez le mandril. C'est un gros singe qui possède un visage avec un nez bleu et rouge. Tous ces éléments qui... Le nez, pardon, va se gonfler au moment où il est en colère, ce qui va évidemment montrer aux autres individus combien la colère de l'animal pourrait être dangereuse. Et donc, on peut savoir comme ça où on en est de l'état émotionnel de l'animal. Alors, d'autres éléments visuels, d'autres signaux visuels sont présentés par exemple par les lucioles qui vont être capables d'émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle la luciférine par exemple, qui va être l'élément clé qui va éclairer ou non la nuit. Et évidemment, ça va attirer ou pas les autres individus. Et donc, tous ces signaux visuels peuvent aussi bouger. Peuvent aussi montrer des mouvements. C'est ce qu'on appelle les signaux taxiques.
D'accord.
Par exemple,
quand on joue les
sémaphores, quand on fait des grands gestes.
Voilà.
Alors, des animaux font ça, ces signaux taxiques. Pensez par exemple au fait de baisser les oreilles ou de taper du pied, comme peut le faire le zèbre quand il est en colère.
C'est aussi du son, en fait, taxique.
Non, c'est le mouvement qui compte.
Ouais,
dans le mouvement ici, que l'animal tape du pied, c'est pas pour produire du son, c'est pour montrer qu'il bouge. Il va lever la queue ou il va baisser la queue, tout ça, ce sont des signaux taxiques. Le signal taxique le plus intéressant, c'est celui probablement du crabe violoniste.
Ah oui, quand ils sont nombreux, là, avec leurs pinces.
Voilà, le crabe qui possède une énorme pince, soit à gauche, soit à droite, avec une pince réduite. Et sa grosse pince, il va la bouger devant lui. Il va émettre avec cela un mouvement particulier qui est censé séduire la femelle. L'animal ici va évidemment jouer beaucoup à cet élément parce que c'est un moment important pour concevoir l'attirance. Mais en fait, quand on fait ce type de communication, on s'aperçoit que la plupart des animaux vont mobiliser tous les canaux sensoriels. Même si les canaux sensoriels présentent des différences d'efficacité, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, quand on fait des signaux olfactifs, ils peuvent rester sur place, la portée par contre assez moyenne, il faut généralement être proche pour sentir quelque chose, le coût énergétique est faible, mais par contre, quand on est loin, c'est plus difficile de localiser d'où vient l'odeur. Le signal sonore, il est rapide, il est facile à voir, mais il se dégrade très 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 vite. On peut à peu près le localiser, mais à condition de le répéter souvent, donc ça coûte beaucoup d'énergie. Visuel, c'est variable, ça dépend. La nuit, on ne peut pas le voir, sauf si c'est de la lumière. Le jour, on peut le voir. Bon, tactile, c'est évidemment une distance très très courte. Et donc, évidemment, tous ces signaux vont être plus ou moins associés pour réussir à produire ce que l'on veut produire, c'est-à-dire du sens. Car évidemment, si les animaux parlent, si nous parlons en biologie, s'il se passe quelque chose, c'est qu'on veut d'abord construire un monde pertinent autour de nous. Les animaux sont d'abord bavards. et nous allons entendre ce bavardage.
C'est la chanson des bavards qui parle, c'est la chanson des bavards qu'on entend sans vouloir. Incorrigible bavard, bavard. Quand il commence à cappella, jamais de silence, il n'arrête pas, coupe la parole et c'est pas drôle. Il postillonne longue parabole, ils interviennent sans intérêt, veulent qu'on les écoute, discours abstraits, seuls contre tous, des antithèses, ils se gargarisent, manque de synthèse, bavard. Bavard, incorrigible bavard, qu'on entend sans vouloir. Pendant des heures au téléphone, s'écoute parler, c'est monotone. Plein d'anecdotes, ils vident leur sac, tous leurs souvenirs jetés en vrac. La langue pendue tienne le crachoir, on n'entend que prennent pas le temps de boire. Toute leur culture sur des tartines, savent pas conclure, ils prennent racine. Dans la bouche, rien dans leur gars. Y'en a qui en font leur métier, on les appelle des conseillers. Des milliers de mots dans le gosier, vocabulaire spécialisé. Ils parlent, ils parlent, ils parlent toujours. Ils parlent, mais ils sont sourds.
Écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Écoutez-moi, je m'en. Mais écoutez-moi, écoutez-moi.
La chanson des bavards qui parle, c'est la chanson des bavards qu'on entend sans vouloir. Bavard, bavard, bavard.
Nous écoutions Tom Novembre, Bavard. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité.
Et c'est la radio de la Fédération anarchiste. Nous voilà donc toujours à poser la question de qu'est-ce que c'est que les signaux de communication. Et il va bien falloir maintenant que nous abordions un autre problème, le problème essentiel. Comment ont-ils évolué ? Quelle est cette évolution des signaux de communication qui a pu donner de telles variations ? Alors parmi tout ce qu'on peut connaître, ce sont bien entendu les signaux émotionnels qui nous sont probablement les plus faciles, les plus familiers. On sait très bien quelqu'un qui exprime la peur, qui exprime la joie, qui exprime l'inquiétude ou encore le tourment. Tous ces signaux-là nous sont parfaitement connus. Le problème, évidemment, c'est de comprendre pourquoi ces éléments sont aussi connus. Eh bien, il n'a pas fallu attendre très longtemps, c'est Huskreck dans les années 1923 qui a découvert que les comportements qui avaient perdu leur flexibilité et leur fonction se sont stéréotypés à travers un processus donné évolutif qu'on appelle la ritualisation. C'est cette ritualisation qui donne du sens, qui permet effectivement de troubler le système apparemment continu d'un signal pour le faire apparaître comme un contraste par rapport à un autre, ce que Darwin par la suite va appeler le fameux principe d'antithèse. Alors il est évidemment tentant de comprendre qu'il y a des signaux qui seraient des signaux primaires, ceux qui seraient les signaux directement issus du processus émotionnel, des signaux arbitraires, comme les cris de peur ou les cris d'agression. On a tous en tête ces éléments particuliers, hein, le cri d'un écureuil qui s'enfuit.
De réaction, en fait.
Voilà, la réaction immédiate, la peur, la souffrance. Le aïe quand on se fait pincer, par exemple, des choses de ce genre.
Ah oui.
Et l'hypothèse qu'il y aurait des signaux informatifs secondaires qui, eux, seraient des signaux dérivés de cette émotion et qu'on utiliserait pour autre chose, comme par exemple les hurlements sociaux chez le coyote qui auraient comme fonction de fabriquer du groupe social. Évidemment, cette hypothèse est toute simple, mais elle nous permet de faire croire, en quelque sorte, que certains signaux sont différents des autres à travers un mécanisme particulier qui est celui de la ritualisation. Dans la réalité, que ce soit un signal qui sorte de l'émotion ou que ce soit un signal qui soit secondaire, il n'y a pas de grande différence de ritualisation. Lorsqu'on dit « aïe »,
oui, enfin, c'est parce qu'on répète un son.
Pas seulement parce qu'on répète un son, mais parce que le signal, il est arbitraire à la base. On dit « aïe », par exemple, pour dire qu'on a mal, on dit « oh » pour dire qu'on a peur, mais on ne va pas retrouver ça dans toutes les sociétés de la même manière. C'est-à-dire qu'on va parfaitement voir, même chez les êtres humains, qu'il va exister des variations dans cette expression-là, même si, évidemment, la variation se passe à travers un élément extrêmement réduit, puisqu'il faut que ce son soit immédiatement compréhensible.
Mmh.
Par exemple, on a l'idée qu'on va mettre la main à plat pour dire « regardez, on est des amis ». En fait, ce signal-là prend sens chez l'humain parce qu'il dit en gros « regardez, je viens sans arme, je viens sans intention de vous taper dessus ». Mais il est quand même encore assez ambigu. Bon, les oryx, par exemple, qui se battent avec leurs longues cornes, sont des antilopes, hein, qui possèdent des très longues cornes, eh bien, en règle générale, elles vont ritualiser leur agression, leur combat, pour essayer de ne pas se taper dessus sur le ventre, mais plutôt de se taper par le tronc, par la tête, pardon, de manière à éviter que le signal n'ait pas de sens. Si le signal n'avait pas de sens, eh bien, il passerait un combat immédiat. C'est la même chose chez les crotales, qui au lieu de passer tout de suite à la morsure, vont déjà se contenter au départ de taper sur leur rivaux, de le plaquer au sol.
Ils se préviennent en fait, quelque part, de risque de combat ?
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va faire de l'intimidation, mais c'est tout aussi incroyable. Parce que quand on réfléchit bien, l'intimidation, c'est un comportement qui est retenu. C'est comme si, effectivement, on n'allait pas au bout de ce qu'on allait faire. Au lieu de taper sur l'autre, on lui montre son poing fermé en disant « regarde, je peux te taper dessus ». Je peux te taper dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on retient ? Pourquoi est-ce que le comportement va se ritualiser et sera suffisamment compréhensible parce qu'on se retient ? Alors, c'est évidemment étonnant quand on voit les armes que possèdent les animaux de découvrir qu'on peut se retenir. Les animaux possèdent ainsi des grands mandibules, le moindre chat, il a des griffes, il est capable de faire énormément mal. Et pourtant, cette version amoindrie va en fait en quelque sorte participer à la communication parce qu'au lieu d'arriver au choc immédiat, on va ritualiser.
Notre fameux chat noir, chat narcissiste, n'est-ce pas, quand
voilà.
Il est hérissé.
Oui, comme c'est bien visible sur le logo de la CNT, le chat tout hérissé, tout mordeur, il donne déjà l'indication que quelque chose peut se passer. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'une agression, il s'agit bien d'une ritualisation. Comme si les pressions sélectives avaient agi pour mouler les signaux dans une communication stéréotypée, dans quelque chose qui signifie « attention, danger, je suis présent, mais j'ai quand même encore la capacité d'amplifier ». En fait, la ritualisation va souvent amplifier un geste pour lui donner une pertinence. C'est en quelque sorte un symbole de combat, au lieu d'être le combat ou un symbole d'autre chose. Au lieu d'être la chose elle-même, elle en est en quelque sorte l'élément détourné. Alors, c'est très visible, par exemple, dans des séquences de ritualisation sexuelle, où l'objectif de la parade amoureuse, prenez par exemple les cigognes, eh bien les cigognes vont lever la tête, tourner le cou. Évidemment, leur objectif n'est pas de tourner le cou ni de lever la tête, mais elles vont exhiber en quelque sorte là, d'une manière exagérée, des séquences comportementales qui sont censées demander à l'autre, eh bien, synchronise-toi avec moi. Parce que la synchronisation, eh bien, c'est une manière de demander en quelque sorte avec l'autre la possibilité d'une relation.
Le consentement.
Voilà. La demande exacte, c'est celle du consentement à travers ce type de signaux qui vont petit à petit se ritualiser, montrer en quelque sorte une forme amoindrie d'eux-mêmes. Alors évidemment, c'est pas du tout négligeable, cette forme amoindrie d'eux-mêmes. Et on peut retrouver ces éléments dans plein de comportements absolument étonnants. Dans plein d'éléments tout à fait incroyables. Prenez par exemple la poignée de main. Eh bien, voilà un signal, la poignée de main, qui est effectivement viril. on voit très bien qu'il s'agit là d'un engagement de combat. On peut retrouver cet engagement de combat dans des comportements comme par exemple le bras de fer. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde asiatique, où là, au contraire, pour se dire bonjour, on ne va pas se faire un check-in, on ne va pas se faire une poignée de main, mais on va au contraire joindre les mains et se pencher en avant. C'est le salut à la chinoise ou à l'indienne. Ces saluts ont pour objectif de montrer, regardez, je n'ai pas envie de me battre avec vous, je suis gentil. On voit très bien ici que selon les sociétés, selon la culture, les signaux vont être ritualisés d'une manière différente. Alors, même si ces signaux prennent petit à petit une ampleur considérable, ils sont pourtant d'une origine tout à fait particulière. Prenez par exemple le salut militaire. Bon, voilà un salut que personne ne se fait dans la vie quotidienne. Hein. Dans la vie quotidienne,
non, effectivement,
voilà, on se fait la bise, on se dit bonjour très différemment. Mais d'où vient le rituel du salut militaire et pourquoi est-ce qu'il est présent sur toute la planète ? Eh bien parce qu'il dérive en fait du fait de lever son casque. Lorsqu'on était au Moyen-Âge et que les chevaliers qui se battaient, enfin ces gros imbéciles féodaux qui essayaient de vaincre et qui étaient en fait les armées des rois, enfin qui étaient là le bras armé, le bras de la violence armée des rois pour s'emparer d'un territoire, et bien lorsqu'ils devaient se rencontrer, il fallait bien entendu qu'ils soulèvent le home pour qu'on puisse reconnaître leur visage et dire attendez, on va pas se taper dessus, on a certes des couleurs mais on fait partie de tel groupe ou de tel autre. Et pour avoir ce mouvement amical, ils étaient obligés de soulever le home pour montrer leur visage. Et bien le mouvement de main du salut militaire correspond à cette ritualisation particulière. Ritualisation, bien sûr, qu'on va retrouver dans de nombreux cas, dans de nombreux gestes, dans de nombreux éléments particuliers qui sont là pour signaler en fait que nous sommes de tel pays, de tel endroit ou de telle particularité. Et ces types de signaux sont particulièrement fréquents dans le monde militaire.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Brunn, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
C'est c'était Marlène Dietrich, Lily Marlène. Donc maintenant, il y a une question qui me... Enfin, qui me turlupine là. En fait, quand on voit les espèces comme par exemple la salamandre, elle est de couleur noire et jaune. Alors ça veut dire là, ou comme des couleurs qui peuvent être rouge et noir. Enfin, il y a des couleurs qui expriment quelque chose chez les espèces.
Voilà, alors nous sommes toujours dans la question de la communication et de l'éthologie, mais on s'aperçoit qu'il y a effectivement des individus qui vont posséder des couleurs dites aposématiques.
Ah, aposématiques, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire des couleurs d'avertissement. Alors ces couleurs se sont choisies au fur et à mesure que l'évolution s'est faite, à travers des éléments très contrastés, pour qu'elles soient indiscutables. C'est important que la couleur d'avertissement indique que l'animal est dangereux ou non consommable. Bon, par exemple, chez la salamandre dont tu parlais, les couleurs retenues sont jaune et noir. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que d'un point de vue évolutif, chez la guêpe aussi, les couleurs sont jaune et noir. C'est-à-dire que ces deux contrastes colorés permettent d'indiquer à toutes les espèces, attention, ces deux couleurs-là associées signifient que l'animal est soit toxique, soit dangereux. Alors, tout n'est pas encore tout à fait orienté autour de cette convergence-là. Il y a encore des espèces qui peuvent porter des couleurs rouges ou des couleurs rouges et noires. Mais on voit très bien qu'il y a, dans cette tentation-là, un arbitraire. Ça a été choisi jaune et noir. Ça n'a pas été choisi.
Ça n'a pas été choisi par l'espèce.
Ça a été choisi par les prédateurs qui, au fur et à mesure, ont plutôt consommé des animaux qui n'avaient pas ces couleurs-là. Et donc, petit à petit, évidemment, les animaux qui réussissaient à mieux se reproduire étaient ceux qui possédaient ces couleurs particulières. Et donc, cet événement évolutif, cette communication évolutive, s'est faite non pas pour l'animal lui-même, mais par les autres animaux, puisque l'évolution, ce sont toujours les autres qui la produisent.
Ça veut dire que quand en tant qu'humain, on s'habille en jaune et noir ou en rouge et noir, on renvoie un aspect agressif aussi ?
C'est pas agressif, c'est simplement l'indication, attention, je suis dangereux, potentiellement, si vous m'attaquez, vous serez en danger, soit digestif, hein, comme la salamandre, soit en danger, évidemment, comme la guêpe, parce que je possède du venin. Mm-hmm. Ces couleurs associées à des animaux qui possèdent du venin vont évidemment indiquer cela, mais il y a d'autres animaux, comme les batésiens, qui n'ont même pas de venin et qui ont ces couleurs-là, c'est pas grave. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue évolutif, posséder des couleurs d'avertissement, des couleurs aposématiques, c'est pas un avantage. Car l'avantage, c'est aussi d'avoir des couleurs de camouflage. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir à la fois des couleurs de camouflage vont dire...
C'est contradictoire.
Voilà, on ne me voit pas dans l'environnement, donc le prédateur ne va pas me détecter, c'est quand même pratique. Ou au contraire, d'avoir des couleurs où on dit, regarde, tu me détectes, mais il faut pas que tu me manges. Alors, le défaut d'avoir des couleurs d'avertissement, c'est qu'il faut que le prédateur sache que c'est une couleur d'avertissement. Alors, il y a des animaux qui, devant ces deux éléments-là, vont présenter des contradictions. Prenez par exemple le sonneur à ventre jaune. Eh bien, le sonneur à ventre jaune, c'est un petit crapaud qui est tout à fait intéressant parce qu'il possède en fait une visibilité tout à fait très... Il est extraordinairement discret. Il a la même couleur que la terre, la même couleur que le sol. Et quand il est posé sur le sol, normalement, on ne le voit pas. Le problème, c'est que c'est pas un avantage de ne pas être vu toujours. Par exemple, quand on se déplace dans un champ, même si on ne voit pas, sa couleur, eh bien, une vache peut lui marcher dessus, un cheval peut passer dessus en courant, ou alors il peut être dérangé par un animal qui va le détecter en se demandant ce que c'est. Et là, du coup, comme c'est un crapaud qui possède du venin sur sa peau, il faut qu'il montre qu'il a de l'avertissement. Et pour cela, il va montrer son ventre qui est jaune et noir
qui va
indiquer en effet que le signal existe et que effectivement il va falloir faire attention à lui.
Donc lui il a les deux choses en même temps.
Il a deux signaux, un signal d'invisibilité et un signal d'avertissement. Mais vous voyez qu'il est obligé de développer un comportement particulier, de se soulever, de montrer son ventre jaune pour que ce signal puisse avoir du sens par rapport au prédateur. Alors évidemment cette solution a été mise en place à travers ces signaux spécialisés parce qu'ils ont emprunté un seul canal, celui de la vision. Vous voyez tout de suite ici que ça peut présenter un défaut. Certains d'autres animaux, par exemple, vont présenter le bombicole, par exemple, n'est souvent...
C'est quoi un bombicole ?
Le bombicole, c'est un produit olfactif, c'est une odeur qui n'est produite que par les bombyx. Et donc, il n'y a que les bombyx qui sont capables de reconnaître. Voilà, ce sont des papillons, les bombyx. Oui, merci, Siona. J'ai tendance à me laisser aller en face des auditeurs. On s'aperçoit, par conséquent, qu'il va y avoir un défaut, parce qu'il faut que le signal soit le plus large possible pour être compris par le plus d'individus possible, ou au contraire, le plus précis pour n'être compris que par sa propre espèce. Tout ça, ce sont des éléments contradictoires qui vont fabriquer évidemment ces signaux et la complexité de tous ces signaux particuliers. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que si on émet un signal, on peut être détecté, et donc ça nous conduit à avoir peur des prédateurs, avoir peur de l'environnement, et en même temps, on peut aussi tirer un avantage à émettre des signaux. On l'a dit un peu tout à l'heure. Par exemple, si j'ai une couleur d'avertissement, même sans être dangereux, je peux faire peur. Alors que si ça se trouve, je n'ai aucun... C'est ce qui se passe par exemple chez les insectes qu'on appelle batésiens. Ils possèdent la même couleur que la guêpe, jaune et noir, mais ils ne peuvent pas piquer. Et donc, évidemment, on va tirer un avantage en manipulant le récepteur du signal, en se disant que le récepteur va nous croire. Alors c'est bien parce que l'émetteur peut ainsi tirer, peut manipuler le récepteur. Alors le problème, c'est que le récepteur aussi il peut manipuler l'émetteur, évidemment, puisque le récepteur il peut aussi participer du fait de taper sur un animal, par exemple un animal qui a envie de gagner le combat, mettons un moineau qui veut être le plus fort que les autres, et bien dès qu'il entend un autre moineau chanter, il peut se précipiter et lui taper dessus pour l'empêcher de chanter. Ou alors une grenouille, comme la grenouille agile, va chanter très peu fort parce qu'elle a peur, évidemment, d'être détectée par le héron ou par le putois, alors que son but, c'est d'attirer d'autres grenouilles. Il y a donc, on le voit, des conflits d'intérêts dans les signaux et par conséquent, ça va être pas facile de faire des signaux qui soient des signaux qui soient faciles à détecter. En fait, tout va aller vers une évolution qui va conduire à des signaux qu'on appelle en biologie des signaux honnêtes.
Ah bon, ils sont honnêtes.
Voilà. C'est-à-dire que le signal honnête, ça va faire que la proie, le prédateur ou l'individu qui veut séduire va être en quelque sorte obligé de dire la réalité des choses. Si par exemple on a un signal de notre âge, si le signal montre qu'on a des cheveux blancs, par exemple, voilà un signal d'âge qui est facile à comprendre,
eh bien,
il est honnête parce qu'effectivement on va avoir ce signal à partir d'un certain âge, à partir d'un certain moment, et que ces signaux-là, le récepteur va être capable de les détecter. Un autre signal honnête qui a une importance capitale, c'est ce qu'on appelle le stotting.
Alors,
le stotting, ce sont quand les gazelles, les antilopes, se mettent à courir, à sauter en l'air. Elles sautent, elles montrent un comportement tout à fait étonnant. Elles ont vu le prédateur, mais au lieu de s'enfuir en courant, elles vont se mettre à sauter, à montrer qu'elles sont puissantes. L'objectif, c'est de dissuader le prédateur de la chasser. Le stotting va donc montrer que la gazelle, elle est puissante, qu'elle est capable de se défendre. Le prédateur, lui, va au contraire choisir des proies qui vont être plus faciles, qui vont moins montrer cette capacité de se défendre. Et donc, ce comportement de détournement, le stotting va permettre de détourner, en fait, le prédateur de sa proie. Et donc, on voit très bien ici que les signaux vont évoluer vers des éléments qui vont être dits honnêtes.
Bamako à Timbuktu en l'an 2003, amas de pneus, champs de plastique, petite vendeuse de racines de manioc, Coca-Cola, Texaco, cigarette American Dream, vieille ramasseuse de bois sec des familles du fleuve Niger, troupeau de mobilettes, balais les chèvres, rapportant son ballot de mille devant la sécheresse. C'est Mara, c'est Danou, ça rabat, ça m'a gayé. Atama dia dia, ça bora. C'est échappé, la vérité était ici et l'erreur ailleurs, ce temps est révolu. La vérité se faufile entre les pierres du désert, de Timbuktu à Essakan. Tout était échappé, caravane d'âne chargée de l'or, des mines de bourrée, de bambouk. Attelage de chevaux, de garamantes chargées de sel d'ivoire, d'armes et d'étoffes. C'est Marat, c'est Danou, ça rabat, ça m'a déillé. Atama dia dia, ça m'a. Timbuktu en l'an 2003, la misère se promène en petits pantalons, en bout de cotonnade et sa marmaille est riante. La sagesse et l'erreur habitent la même teinte. Oiseau bleu, milliard de briques à banco, quête de l'ombre et longue prière. Particules humaines du Mali, maraboutage et chiffres divinatoires. C'est Mara, c'est Danou, ça rabat, ça m'a gayé. Atama dia dia, ça bara.
Comment ça petit, la paix seulement. Qui a d'enfants pour ça, le paradis de diable.
c'était Lojo de Tombouctou à Essakane.
De retour sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté.
Donc Thierry, tu nous parles
de la recherche du mois.
Voilà.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, de travaux de recherche concernant, bien entendu, le langage, ou plus exactement, la communication. Alors, c'est l'apport de von Frisch qui est le plus important probablement sur cette question-là. Von Frisch est un chercheur allemand qui s'est intéressé à la manière dont les abeilles communiquaient, et on a appelé ça par la suite le langage des abeilles. Alors, en effet, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Tout le monde le connaît maintenant un peu, mais les abeilles sont évidemment capables de partir en vol chercher des butins, chercher du butin, c'est-à-dire chercher du pollen ou chercher du nectar, de fleurs. Et quand une abeille a découvert un champ où il y avait ou un arbre, un arbuste qui contenait suffisamment de butin, il faut évidemment qu'elle ramène à la ruche ce butin, mais il faut qu'elle explique aux autres abeilles, ben là-bas, dans ce coin-là, en prenant telle direction, en tournant à gauche, à droite et au milieu, on peut tous faire un bon butin rapidement et plus pratiquement. Alors, toutes les abeilles font un peu ça, donc elles vont un peu se battre les unes des autres pour indiquer quelle est celle qui va avoir le meilleur butin. Évidemment, quand elles arrivent à la ruche, elles ont une manière particulière de communiquer la direction et la distance auxquelles les...
Mais comment font-elles ?
Alors, pour cela, von Frisch a découvert qu'elles dansaient. C'est une danse tout à fait particulière. En fait, on s'aperçoit que les abeilles, en arrivant à la ruche, vont se mettre au milieu des autres abeilles et qu'elles vont tourner en rond. Donc, c'est la danse en rond. Cette danse en rond correspond au fait que les abeilles sont à moins de 50 mètres du butin. En tournant en rond, elles vont émettre les odeurs qu'elles ont captées sur les fleurs, sur le nectar, et elles vont dire, bon voilà, en gros, quelle nourriture il y a, c'est du pollen, c'est ceci, c'est cela, et c'est pas loin, puisque je danse en rond. Donc, les autres abeilles peuvent être incité à se rendre sur le lieu selon le type de danse. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'en plus, les abeilles vont être capables d'émettre cette danse en fonction du rapport au soleil. C'est-à-dire qu'elles vont danser selon un angle particulier qui va indiquer la direction si on prend le soleil en face. Et les abeilles vont donc pouvoir partir dans la bonne direction selon la manière dont le rond est fait. Alors c'est encore plus net avec la danse qui n'est pas une danse en rond, mais une danse en 8. La danse en 8, c'est quand le butin est généralement situé à plus de 50 mètres. Et là, l'abeille va faire cette danse en 8 en faisant un demi-cercle, puis elle va foncer sur le milieu dans une direction particulière, puis refaire un autre demi-cercle et repartir sur le milieu dans une direction particulière. Tout ça, toujours selon un angle particulier du soleil. Bon, par exemple, si le butin est à 40 degrés, mettons, du soleil, où le soleil est à ce moment-là, eh bien, l'abeille va avoir ces deux demi-cercles qui vont être à 40 degrés à peu près de l'angle du soleil. Et on va retrouver dans le bourdonnement, dans la vitesse, pour effectuer ce mouvement, l'élément concernant la distance. Là, l'abeille va indiquer s'il y a du vent ou s'il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, ça va.
C'est incroyable,
ça va aller plus ou moins vite.
Danse.
Tout à fait. Elle va aussi indiquer à travers l'excitation qu'elle a si c'est beaucoup de butin ou si c'est pas beaucoup de butin. Et donc tout ça, ça va donner des informations tout à fait intéressantes aux autres abeilles. Alors on voit très bien qu'il s'agit là d'un élément intentionnel, qu'il y a là une véritable communication et pourtant on ne possède pas encore de cerveau. On est ici sur des ganglions périœsophagiens, c'est-à-dire des gros ganglions sans... c'est pas du
Quel
tout un cerveau,
mot.
Voilà, ce sont des gros mots tout ça. Ce sont des gros ganglions un peu comme nous, on a des ganglions dans notre moelle épinière et qui en fait, suffisent pour indiquer des choses extraordinairement complexes, comme on le voit. On est donc vraiment ici situé dans des mécanismes très très complexes, et c'est ça la grande recherche qu'avait fait von Frisch par rapport aux abeilles. On est donc ici sur un mécanisme tout à fait étonnant, le vol de l'abeille en quelque sorte.
Thank you.
Eh bien, ce morceau très moderne et pourtant de Rimsky-Korsakov, c'est le fameux vol du Bourdon. Nous sommes, vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste et dans une émission pour les cortiqués du bulbe, Science en liberté. Et nous parlons d'éthologie puisque nous parlons de la communication chez les espèces animales.
Alors, les animaux, en fait, se communiquent, mais ils peuvent mentir aussi ?
Eh oui, les animaux sont aussi capables de communiquer faussement. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu avec les questions du mimétisme, on peut tricher, on peut essayer de se cacher, de disparaître. Mais on peut aussi raconter quelque chose de faux. Par exemple, on peut, quand on est une baudroie, qu'on vit dans le fond de la mer,
un gros poisson
pêcheur qui vit dans le fond des océans, utiliser un filament pêcheur. C'est-à-dire que l'un de ses rayons va être transformé, un des rayons de la nageoire dorsale est transformé, pour émettre une petite luminosité qui va briller dans le fond de la mer. Cette petite luminosité va intéresser certains poissons qui vont venir et en fait, ils vont se retrouver confrontés à une simple lueur bizarre à côté de la bouche de la baudroie. Et la baudroie va pouvoir ainsi consommer le petit poisson qui s'approche. D'autres mensonges sont connus, par exemple la couleuvre à collier. Alors la couleuvre à collier fait un mensonge considérable, ça va évidemment lui sauver la vie. En règle générale, quand elle est capturée, elle est capable d'émettre des odeurs déjà qui sont pas très très agréables. Mais elle peut faire plus. Vous allez voir d'un seul coup la couleuvre à collier, quand vous la touchez de trop près ou que vous l'embêtez de trop, d'un seul coup ouvrir la gueule, s'aplatir, tomber sur le sol avec la langue pendante et émettre une odeur de cadavre pestilentiel.
Elle fait comme si elle était morte.
Voilà, elle mime la mort. La couleuvre à collier, en mimant la mort, espère ainsi qu'on se détourne de son corps, d'autant que, comme elle pue beaucoup, ça donne l'impression que son corps est en putréfaction. Alors évidemment, dès qu'on tourne le dos, qu'on ferme les yeux, elle se reprend et elle repart tout de suite. Mais c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il s'agit ici bien de mensonges. Il s'agit bien de dire à l'autre quelque chose qui n'est pas vrai.
Or, dire quelque chose... Ils ne le font pas consciemment.
La question de la conscience, on en parlera un petit peu plus tard. La question n'est pas là. La vraie question pour l'instant qui se pose, c'est de se rendre compte que la communication est capable d'une double communication, dont notamment cette capacité d'émettre des choses qui ne sont pas vraies. Techniquement, dire quelque chose qui n'est pas, c'est un mensonge. Alors le cas le plus fréquent de mensonge, c'est aussi celui qu'on appelle la parade de l'aile brisée. Ça existe chez beaucoup d'oiseaux, le pluvier, l'avocette, le petit gravelot. Alors, le petit gravelot est un oiseau qu'on aime particulièrement bien ici à Angers parce qu'il est assez fréquent sur les bords de la Loire, mais on peut le trouver aussi en Seine sur les petites îles sur lesquelles il y a du gravier. Le petit gravelot est un oiseau qui fait son nid au sol tout simplement et qui est à peine distingue. Généralement, les œufs sont suffisamment mimétiques pour qu'on ne les distingue pas, mais un prédateur peut venir. Que fait le petit gravelot si un chat, une belette ou un autre prédateur arrive ? Eh bien, il va mentir au prédateur. Il va lui dire « Regarde, bien sûr j'ai des œufs, mais ils sont pas très appétissants, tandis que moi je suis beaucoup plus appétissant. Et regarde comme c'est facile de m'attraper, je suis blessé. » Il va faire ce qu'on appelle la parade de l'aile brisée. C'est-à-dire qu'il va s'enfuir en trébuchant, en montrant qu'il a une aile qui traîne sur le sol. Donc, du coup, la belette elle va se dire, ou la fouine, ou le chat va se dire « Tiens, la proie est bien appétissante, en plus elle bouge. » Il est en train de bouger devant le chat, il est en train de partir devant le chat, ou devant la fouine, ou devant la belette. Et donc, en partant, en trébuchant, en se traînant sur le sol, il apparaît être une proie facile. Évidemment, la belette va s'approcher, c'est surtout les chats, en fait, qui vont s'approcher. Et au moment où il est prêt à s'approcher, eh bien, l'oiseau va retrouver d'un seul coup son aile, puisqu'elle n'est pas du tout brisée, bien sûr. Il s'agit bien d'un mensonge.
Enfin, il fait mine.
Voilà, il fait semblant d'avoir l'aile brisée. Faire semblant, c'est mentir. Faire semblant, c'est tricher. C'est faire croire, en fait, quelque chose qui n'est pas. Alors, ça nous amène à des choses tout à fait étonnantes, parce que, en fait, une grande partie de nos grimaces, une grande partie de nos comportements sont assez proches de cela. On va prendre, par exemple, l'expression du rire. Alors, l'expression du rire chez l'humain, c'est quelque chose qui émerge environ 5 semaines après la naissance. Et on voit apparaître d'un seul coup des bébés rieurs. Des bébés qui vont être contents de faire quelque chose. Évidemment, l'impression qu'on a, c'est que le bébé, il est content, qu'il est heureux de vivre. Dans la réalité, cette expression découle directement de la grimace des chimpanzés, de beaucoup d'autres singes savent rire. Ces grimaces particulières ne sont pas là pour dire que l'individu est content, mais pour se faire reconnaître et pour montrer qu'on reconnaît autrui. Là, en fait, on s'aperçoit que le comportement qui est le plus proche du rire, c'est le comportement de défiance. Chez les chimpanzés, ça consiste notamment à montrer ses canines, à dire « attention, je peux être potentiellement dangereux ». Alors c'est assez étonnant, parce qu'on voit très bien ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans les comportements de communication, il y avait comme une espèce de retenue. C'est-à-dire qu'on fait comme si on allait faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Et bien là, c'est ça. Dans le rire, on fait croire qu'on est agressif, on est agressif, mais on ne l'est pas jusqu'au bout. Alors ça se voit bien qu'il y a cette agression, qu'il y a cette dimension agressive dans le rire, quand par exemple on rit de quelqu'un qui trébuche, de quelqu'un qui tombe, quand on rit le comique de certaines scènes de théâtre, de certaines pièces ou de certains vieux films, c'est en effet des personnes qui se cassent la figure ou qui tombent, et ça nous fait rire. En fait, il y a là une dimension agressive. Mais dans le même temps, dans le rire, il va y avoir aussi une dimension souple. C'est-à-dire qu'on va essayer de taire le rire en essayant de montrer qu'on reconnaît dans l'autre quelque chose de vivant, quelque chose d'animé. Et c'est assez compliqué de s'apercevoir comment ces comportements peuvent déclencher aussi un apaisement. Le signal d'apaisement fait partie du mécanisme de rire. On retrouve ça chez les singes, on retrouve ça chez beaucoup d'espèces, puisque très récemment, Panksepp et Berghoff ont découvert qu'il existait ce qu'ils ont appelé le chirp chez les rats et qui était en fait le même mécanisme que le rire. On l'a découvert aussi chez le chien, on l'a découvert chez beaucoup d'espèces actuellement, des écureuils, etc. Des animaux sont capables de rire simplement parce que ça facilite une coordination affective et ça va stimuler complètement le système de réponse à autrui. Alors ça va même plus loin, puisque ça stimule son propre système immunitaire à soi. C'est un comportement qui va apaiser les autres, tout en étant en quelque sorte un peu agressif. Vous avez remarqué, si vous riez de quelqu'un, eh bien, ça peut l'apaiser. Si vous êtes plusieurs à rire, notamment, ça va l'apaiser. Mais votre rire peut aussi se présenter des éléments plus ou moins agressifs.
Ça fait une cohésion de groupe, quelque part aussi.
Ça participe de l'émotion, surtout. C'est-à-dire qu'on découvre à l'intérieur du rire des éléments qui sont tout à fait émotifs. Alors, ça nous conduit relativement loin, parce qu'on s'aperçoit que le modèle de l'information sur lequel on avait basé notre première discussion, c'est-à-dire le modèle qu'on peut appeler le modèle télégraphique de l'information, selon les théories dites de Shannon Weaver, ce modèle télégraphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie un signal, qu'on envoie un message à autrui comme une espèce de bulle de communication, et que les seules questions qui se posent, c'est de savoir ce que tu as posé tout à l'heure comme question, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est intentionnel, ou est-ce qu'il y a du bruit qui empêche le message? Eh bien, ce modèle-là est un modèle qui est finalement pas du tout le véritable modèle de la communication. Ce modèle qui voudrait qu'on ait dans la communication une simple question de perturbation du signal, soit par du bruit, soit par une interruption, et qui conduirait en fait à exprimer des sentiments qui sont clairs, eh bien n'est pas vrai. Dans le rire, par exemple, notre sentiment, il est un peu agressif, un peu apaisant. Il est un peu les deux à la fois, et il va beaucoup dépendre de la manière dont il est reçu. De la même manière, on s'aperçoit que un des problèmes essentiels de la communication va être celui du lexique. Le lexique, ça veut dire est-ce qu'on est capable de se parler, est-ce qu'on est capable de se comprendre. Alors on a tous déjà assisté à ces signaux bizarres que sont les hiéroglyphes ou ces icônes qui sont sur les portes pour nous indiquer ceci ou cela. Et parfois c'est très compliqué de comprendre ce que signifie l'icône parce qu'en fait il n'est pas toujours aussi clair que ce qu'il voudrait signifier. Car les choses sont évidemment arbitraires et dans le signal de communication, la volonté n'existe pas. Dans le système de communication, on établit des relations à autrui, et pour bien comprendre ce qu'est la communication animale, il ne suffit pas d'apaiser, il ne suffit pas d'indiquer ce qui se passe, évidemment. On va apaiser quelqu'un, par exemple, s'il a eu une grosse frayeur. On va ainsi l'informer que finalement, le danger n'est pas aussi vrai. On peut informer les autres que quelque chose se passe. On peut avoir donc une relation dans l'information. Mais quand le rire se déclenche, on voit très bien que la communication va se déclencher sans qu'on la comprenne immédiatement. En fait, la communication reste parfois bien complexe et il est parfois difficile de savoir de quoi l'on parle.
Porte casuno con uno stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato, tu abballo rock and roll.
tu gioca a baseball, fai sorte per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano,
tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
Nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Whisky che sole e rock and roll, whisky che sole e rock and roll, whisky che sole e rock and roll,
tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Whisky che sole e rock and roll, whisky che sole e rock and roll, whisky che sole e rock and roll.
C'était donc Renato Carosone, no speak americano, hein, non, on ne parle pas tous américains.
Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour parler maintenant des niveaux de communication. Alors qu'est-ce que c'est qu'un niveau de communication ? Eh bien, c'est le fait que les communications s'avèrent multifonctionnelles et qu'elles vont utiliser de multiples canaux sensoriels ensemble. L'objectif n'est pas que de dire une chose, mais de le dire avec tous les moyens possibles. Alors c'est assez intéressant cette idée de niveau de communication, parce qu'on se rend compte en fait qu'il existe des signaux qui vont différer selon les espèces. Le plus souvent, la communication est comprise comme étant quelque chose d'oral, parce que nous sommes, nous, une espèce extraordinairement orale. Mais dans la réalité, la communication non-verbale a évidemment aussi beaucoup d'importance. D'ailleurs, à tel point qu'on est oral, c'est qu'on va parler de communication verbale et non-verbale comme si c'était les deux seules choses qui existaient, alors qu'on l'a vu, il y a de multiples canaux de communication. La communication va se comprendre du point de vue de l'histoire phylogénétique, c'est-à-dire de l'histoire biologique de chacune des espèces. Et chaque espèce va avoir évidemment un type particulier de cette de présentation, de capacité à émettre des signaux. Et le signal lui-même va dériver d'une interaction qui est complexe entre l'individu et son environnement, car il ne suffit pas d'avoir la capacité d'émettre du son pour que ça prenne du sens. Il faut évidemment que quelque chose d'autre se passe. Donc, finalement, l'environnement n'est pas le simple bruit de fond qu'on pouvait penser, et le signal n'est pas simplement ce petit contraste qui va exister. Le signal peut avoir des valeurs différentes. Prenez par exemple l'épouillage. Eh bien, épouiller chez les singes son compagnon, ça signifie évidemment qu'on l'aime bien, qu'on lui plaît bien. Et c'est pas les animaux les plus sales qui vont se faire épouiller le plus souvent. Donc il ne s'agit pas ici de communiquer à l'autre « regarde, tu es sale », mais il s'agit de communiquer à l'autre « je t'aime bien ». En même temps, les individus qui sont sales vont aussi demander à se faire épouiller. L'individu qui est propre ne pourra pas se faire épouiller. Donc il y a là toute une série d'éléments complexes qui vont s'additionner les uns aux autres. Et chaque élément du corps va participer de l'ensemble de la communication. Alors c'est pourquoi Tavolga a inventé ce qu'il a appelé les niveaux d'interaction. La communication n'est pas quelque chose d'émis une fois pour toutes et facile à analyser, mais elle existe selon des niveaux particuliers. Alors il a émis 6 niveaux de communication, par exemple les signaux dits végétatifs. Un signal végétatif, eh bien, c'est tout simplement par exemple la couleur qui va indiquer c'est mangeable, c'est pas mangeable, c'est beau, c'est pas beau. Des niveaux dits toniques, Le niveau tonique, c'est encore un niveau non spécialisé d'interaction. C'est la chaleur du corps, hein. Savoir par exemple que on sent la présence de quelqu'un parce que son corps émet de la chaleur, par exemple, ou de l'ombre. Vous voyez, des choses de ce genre. Et puis encore, comme niveau non spécialisé, il y a le niveau phasique. Par exemple, l'animal va s'envoler, faire un mouvement. Si on voit un individu qui bouge, eh bien, ça va nous donner une information. C'est non spécialisé parce que ces interactions ne signifient pas grand-chose en soi. Elles disent juste « il y a quelque chose de vivant à côté de nous » et ça nous informe, mais cette information est minima. Après, on a trois autres niveaux d'interaction, nous dit Tavolga, qui sont des signaux spécialisés. Par exemple, le niveau signalétique, c'est le signal d'alarme. Hein, le cri d'alarme que peut pousser un animal quand il est dérangé par quelque chose va informer les autres que eh bien, quelque chose s'est passé. Le niveau signalétique, c'est aussi ce que vous faites, vous, quand vous voyez qu'un feu rouge, par exemple, est là. Donc, on s'arrête au feu rouge. C'est un signal qui nous émet cela, et ça nous conduit à avoir un certain type de comportement. S'enfuir devant le cri d'alarme, s'arrêter devant le feu rouge. Après, on a le niveau symbolique. Alors, le niveau symbolique est un peu plus complexe pour Tavolga, puisqu'il signifie qu'on est capable d'associer au symbole tout un ensemble de choses. Par exemple, vous pouvez avoir un symbole bleu et rouge, et vous savez que ce panneau signalétique vous indique en fait qu'il est interdit de se garer là. Il faut donc évidemment interpréter le panneau pour en comprendre le sens. Il ne signifie pas, il n'est pas ici une barrière, il est un symbole. Le symbole, ça peut être aussi le symbole du courage, le symbole de la fierté. C'est pour ça qu'on porte parfois tout un ensemble de signaux, d'éléments qui indiquent tout cela, même si au départ, ce ne sont toujours... Par exemple, un drapeau, c'est toujours un torchon. Ce torchon, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, qu'il soit blanc, pour parler de la France, c'est un torchon particulier. C'est un symbole qui est en fait associé à un état d'esprit plus ou moins nationaliste, etc. Et puis, il y a un autre niveau spécialisé qui est celui qui est le plus complexe, celui du langage.
Langage, ben oui, nous parlons.
Alors, le langage fait intervenir une autre dimension que celui de la biologie. Il faut passer ici à quelque chose d'un petit peu complexe que Ferdinand de Saussure a baptisé la double articulation du langage. Il s'agit bien de sons, mais ces sons vont s'articuler ensemble. Voilà pourquoi on parle d'une double articulation. Alors, le premier élément, c'est le phonème. Le phonème est un son. A, P, M, O, par exemple, voilà des phonèmes. Et ces phonèmes vont s'articuler entre eux pour former des éléments particuliers qu'on appelle des monèmes. En mettant deux phonèmes, P, A, je peux fabriquer pas. En mettant deux autres phonèmes, par exemple, P, I, je peux fabriquer pi. Et si j'associe ces deux monèmes, pas et pi, eh bien ça fait papi. Et donc là, ça peut commencer à prendre du sens. On s'aperçoit qu'il va y avoir un signifiant qui va émerger de ces sons. Alors, c'est assez compliqué à comprendre comment le sens peut émerger des sons. Et il y a énormément de gens qui se sont posé plein de questions depuis Platon pour essayer de comprendre si ces sons, si ces éléments signifiés émergeaient en fait parce qu'ils étaient naturels, biologiques, ou si au contraire, ils étaient complètement fabriqués. Alors certes, les langues sont fabriquées, la double articulation du langage est fabriquée, mais c'est quand même le propre de l'humain que de parler. Et ça, c'est très intéressant de concevoir, car dès le début, les enfants vont être capables de parler avec des sons. Les singes aussi sont capables d'émettre des langages, sont capables d'utiliser des éléments de communication, et même d'associer. On sait par exemple que Coco le gorille était capable d'associer des choses. Et à un moment donné, par exemple, on lui présente un gâteau rassis, et elle est capable de dire « attention, ce gâteau est un gâteau caillou ». Elle ne dispose pas du mot rassis, mais elle n'est pas idiote, Coco, cette femelle gorille, et elle est capable de comprendre que les choses s'associent. Il y a donc évidemment des communications qui dépassent le langage. Un bébé, par exemple, ne parle pas, mais il est capable de posséder du langage, de la même manière que d'autres animaux qui ne parlent pas. Une grande partie de ce qu'on croit être de la communication verbale, réfléchie chez l'humain, est en fait issue de ces éléments-là. Et puis, la communication est encore plus complexe que ça, puisqu'en fait, la communication chez les animaux peut prendre des tournures très complexes, qu'on appelle le double niveau de communication, la métacommunication. Alors c'est Gregory Bateson qui avait découvert ces doubles niveaux de communication en observant des loutres.
Les loutres.
Voilà, les loutres étaient...
Explique un petit peu ce que tu veux dire par là.
Les loutres étaient en train de jouer. Elles étaient en train de jouer dans la nature. Et deux loutres qui jouent, ça donne l'impression qu'elles se battent, évidemment. Donc il y a une loutre qui poursuivait l'autre loutre. Elle faisait des gros bruits. En gros, elles étaient en train de faire quelque chose. Mais surprenant, la loutre qui arrivait sur l'autre en montrant « Regarde, j'ai un gros corps, j'ai des grosses dents, je suis prêt à te manger », ne mangeait pas l'autre. Et l'autre loutre savait qu'elle n'était pas en train de manger. Si vous préférez, ce que les loutres étaient en train de se dire est un message très complexe. La loutre disait « Ce que je fais, n'est pas ce que je montre. Et non seulement ce que je fais n'est pas ce que je montre, puisque je joue, donc je fais semblant de te mordre, je fais semblant de t'attraper, je fais semblant de te poursuivre comme un animal méchant, et l'autre fait semblant de s'enfuir parce qu'il n'a pas vraiment peur, il fait semblant d'avoir peur, mais en plus il sait que l'autre fait semblant d'eux. Et donc il y a ce double niveau de communication où les individus sont capables de ces éléments extraordinairement complexes. Alors quand on a découvert que les animaux dans leur jeu étaient capables de montrer, de dire en gros ce que je fais n'est pas ce que je suis en train de faire, mais tu sais que ce que je fais n'est pas ce que je suis en train de
n'est-ce
faire,
pas
puisque nous sommes en train de jouer et non pas en train de faire le vérité, eh bien nous montre à quel point en fait c'est assez idiot de penser que l'être humain possède une communication
ce
qui
n'est
serait
pas le seul.
Plus forte que les autres, voilà, plus intelligente que les autres. On est bien ici dans un monde totalement différent où le mécanisme de communication va en grande partie dépendre en fait de quelque chose de plus complexe. Et il a fallu attendre l'école de Palo Alto, un groupe informel de chercheurs dans la banlieue de San Francisco, à l'université de Stanford en fait, pour découvrir qu'il y avait plusieurs niveaux de sens à chaque fois qu'on parlait. Bon, par exemple, je peux m'approcher d'une jeune femme pour lui demander mon chemin. Mais en même temps, c'est pas forcément un hasard si c'est elle que j'ai choisie et pas le copain d'à côté qui me paraît moins sympa. Ben, y a une espèce de perturbation possible qui va confondre en fait le contenu et la relation. En effet, on peut parfaitement avoir peur, du coup, si je choisis une femme comme par hasard qu'elle me mette une claque parce qu'elle va se dire j'en ai marre de me faire draguer, alors qu'au contraire, la seule chose que je voulais au départ comme information, c'était demander mon chemin. Mais en même temps, comme je choisis elle et pas une autre, on s'aperçoit que ces doubles niveaux de communication sont permanents. En fait, la grosse question de la communication, c'est de se rendre compte qu'on est tous pris dans des interactions et qu'en fait, l'école de Palo Alto nous résume ça en disant on ne peut pas communiquer.
Voilà. C'est fou, ça.
Voilà, la moindre personne qui existe communique. Elle communique par la ponctuation de ses échanges. Mais elle communique en ponctuation de ses échanges, ça veut dire qu'on va faire des claquements de dents, on va faire des claquements de langue, on va présenter des gestes, on va additionner des choses, des virgules, des pauses. Mais on ponctue non seulement les échanges, mais en plus on dit quelque chose pendant qu'on parle. Et celui qui nous écoute dit « Regarde comme je t'écoute bien hein, ». Vous imaginez, vous
si
parlez...
Si on entend bien la planète de l'autre.
Voilà. Vous imaginez, vous parlez à quelqu'un et celui-là est en train de tourner la tête, d'enlever ses chaussures, de regarder l'état de sa, de son message, etc. Bah, vous savez qu'il
est
en train, il est en train de vous communiquer qu'il s'en fiche. Mais il communique. Ouais. On ne peut pas ne pas communiquer. Même les interactions passées existent. Par exemple, quand on est né, eh bien, on nous a déjà communiqué quelque chose. On nous a déjà dit qu'on ressemblait au grand-père ou qu'on avait le caractère de sa grand-mère ou de sa grand-tante, etc. Ce qui veut dire que dès qu'on existe, on est même obligé de communiquer sur autrui. Alors tous les matins, on cherche cette communication, on va s'habiller d'une certaine manière, mais si on s'habille de cette manière-là, c'est bien évidemment qu'on est des êtres vivants qui vivons actuellement au 21e siècle, et donc on s'habille comme des gens du 21e siècle et pas du 17e. Et si par hasard, on osait s'habiller comme quelqu'un du 17e ou du 18e siècle, eh bien on communiquerait encore quelque chose.
Mais à côté, avec les vêtements qu'on peut mettre aussi, on peut vouloir signifier quelque chose
signifier
aussi.
Signifier qu'on appartient à une bande, signifier voilà. qu'on appartient à un groupe. Ouais. Mais même si on est mort, on communique. Puisque en étant mort, on va montrer qu'on est froid, on va montrer qu'on n'existe pas, on va montrer qu'effectivement enfin, quelque chose s'est passé.
On
ne peut pas ne pas communiquer.
Ouais, par la
ça,
présence.
C'est l'énorme leçon parce que par rapport à la théorie de la communication qui voulait qu'on s'élance des choses et que tout ça dépendait de notre volonté, de notre réflexion.
L'aspect intentionnel.
De l'aspect international.
Là, on a bien l'intention de communiquer tous les deux sur la communication.
Nous
on
deux.
Parle.
Mais si j'étais mort, je communiquerais que je suis mort et pourtant, j'aurais aucune intention derrière. En fait, pourquoi est-ce que ces paroles existent ? Eh bien, parce que tout ça exprime nos propres émotions. La communication est constitutive, est constitutive de la communication. Quand on parle, ce n'est pas notre cerveau qui se mobilise pour donner des informations, c'est notre corps entier qui émet tout un ensemble d'émotions et qui l'exprime aux autres. Voilà pourquoi parfois on est si content de bavarder pour ne rien dire.
N'est-ce pas ?
Car c'est ça le propre de l'humain. C'est de réussir en effet à communiquer,
à
dire aux autres qu'on existe, à dire aux autres qu'on est là. Alors c'est très important tout ça parce que évidemment ça nous change complètement du point de vue communicant où l'on aurait pu penser que la seule chose qui existait c'était que les humains avaient eux une grande force de communication et que les autres espèces étaient elles complètement à côté de la plaque, elles ne communiquaient pas, elles étaient moins intelligentes parce qu'il aurait fallu qu'on soit intelligent pour communiquer. Mais pas du tout. La parole est le propre de l'espèce humaine, faire de l'humanité ça signifie bavarder, émettre ses émotions et bavarder est absolument gratuit. Alors que dans le monde marchand et évidemment, on nous sépare. Et la séparation est le premier acte des dictatures. C'est d'interdire qu'on forme des groupes, d'interdire qu'on se parle. Et tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est parce que la communication, évidemment, est quelque chose qui gêne. La parole est quelque chose qui gêne le monde de la marchandise. Quand on achète de la marchandise, il faut se taire, il faut juste émettre de l'argent. Il y a un peu de parole, mais ce qui est frappant, c'est ça, c'est de voir tous les gens qui se promènent dans les rues, alors qu'il y a là une densité extraordinairement importante d'humains. Eh bien, même s'il y a cette densité, la parole est confisquée, on ne dit rien, on se promène comme ça. La marchandise nous parle.
Eh oui.
La marchandise nous parle et nous dit « Oui, la bière, ça donne du bonheur. Oui, une boîte de conserve, ça vaut un triomphe. » Alors que dans la réalité, c'est pas ça. La question fondamentale de l'humanité va donc bien être de reprendre la parole, de retrouver le sens de nos communautés.
Et de nos émotions et de les parler.
Et c'est ça qui nous fera nos rencontres. C'est ça qui nous fera humains.
C'était Nightwish de Nemo pour Camille de Nantes.
Alors en conclusion, nous pouvons quand même comprendre que si l'école passe son temps à faire taire les enfants, si la biologie croit que les animaux sont silencieux et si le monde contemporain essaye de tout faire pour ne pas entendre le son et l'expression de la faune, bah c'est aussi que, évidemment, nous sommes dans un monde particulier. Nous pourrions conclure en insistant encore. La parole est le propre de l'humain, de notre espèce humaine. Ce qui fonde notre humanité est cette incroyable aptitude à bavarder, à parler ensemble. Et si la marchandise et les marchands se sont emparés de la parole et persistent dans le bruit assourdi de leur commerce, c'est d'abord parce que les humains sont séparés entre eux. Séparés par l'exploitation capitaliste en salariés individuels, séparés par les États en instituts, en individus. Debord disait « Le spectacle réunit le séparé, mais toujours en tant que séparé. Et c'est bien contre la séparation qu'il nous faut lutter. Oui, c'est lorsque nous parlons ensemble de nos vies que le monde peut se mettre à trembler. En parlant ensemble, nous découvrons l'étendue de nos forces et de tout ce que nous pouvons faire. En discutant, nous abolissons ce qui nous sépare. » Et nous pouvons réfléchir ensemble à ce que nous voulons. Communiquer n'existe pas, nous sommes obligés de communiquer car nous parlons ensemble. La parole, décidément, est révolutionnaire puisqu'on nous l'a volée. Reprenons donc la parole, reprenons tout cela en reprenant le sens. Voilà, eh bien merci de nous avoir entendus. Au revoir Siona.
Au revoir Thierry, au revoir à tous les auditeurs.
Et oui, auditeurs, auditrices intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Et nous aurons encore le plaisir de vous retrouver à chaque quatrième lundi, tous les mois, à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour continuer à décortiquer la biologie et toutes ses idéologies qui la parcourent. Voilà, nous finissons cette émission en écoutant Sacco et Vanzetti par Woody Guthrie et en rappelant bien sûr que c'est fait avec la complicité de Monique à Paris. La musique d'introduction était de Hicham Chahidi.
Say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's alive, gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's alive, gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco was a family man. Sacco's wife three children had. Vanzetti was a dreaming man. Book was always in his hand. Sacco made his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti worked both day and night, taught the people how to fight. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Ask me about the payroll robbery. Two clerks were shot in the shoe factory on the streets of old Braintree. I'll tell you the prosecutor's names: Catman, Adams, Williams, Kane. Them and the judge were the best of friends, did more tricks than circus clowns. The judge, he told his friends around, gonna put them rebels down. Anarchist Bastards was the name. The judge, he gave these two fine men, two good men's long time gone. Sacco and Vanzetti are gone, two good men's long time gone. Left me here to sing this song. Sacco docked in 98, slept upon a dirty street, taught the people how to organize. Now in the electric chair he dies. All us people ought to be like Sacco and Vanzetti. Every day find ways to fight on the people's side for workers' rights. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song.
Savoir, voir, quoi qu'il n'y a se taire, air, quoi qu'il n'y a qui parle, arle, quoi qu'il n'y a manger, j'ai, quoi qu'il n'y a dormir, mire, quoi qu'il n'y a écrire, rire, quoi qu'il n'y a mourir, rire, quoi qu'il n'y a d'accord, corps, quoi qu'il n'y a pas d'accord, or, quoi qu'il n'y a je t'aime, même, quoi qu'il n'y a je t'adore, d'or, quoi qu'il n'y a tais-toi, ouais. Quoi qu'il n'y a à boire, ouais, quoi qu'il n'y a ta gueule, quoi qu'il n'y a pensée, quoi qu'il n'y a pas gay, quoi qu'il n'y a cagé, quoi qu'il n'y a bouffé, fait, quoi qu'il n'y a soufflé, flé, quoi qu'il n'y a je souffle, ouf, quoi qu'il n'y a je souffle, ouf, quoi qu'il n'y a savoir, voir, quoi qu'il n'y a écrire, rire, quoi qu'il n'y a parler, quoi qu'il n'y a ignore, yor, quoi qu'il n'y a vieillir, ir, quoi qu'il n'y a crever, quoi qu'il n'y a mourir, ir.
Hijos del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses, asas egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán varidos por los anarquistas al fuerte grito de libertad.